SBS Radio.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Et comme chaque mardi, maintenant, place à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Émile, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une, l'attaque qui a visé la préfecture de police de Paris jeudi. On en sait un peu plus sur le profil du tueur qui a poignardé et tué 4 personnes.
Le meurtrier, Michael Harpon, était âgé de 45 ans. Il souffrait de surdité. Il travaillait à la préfecture de police de Paris depuis 15 ans. Il occupait un poste d'agent administratif. Jeudi dernier, il s'est donc rendu sur son lieu de travail avec un couteau dissimulé dans ses affaires. Couteau qu'il venait d'acheter. Un couteau qui n'a pas pu être détecté par les services de sécurité. Avec ce couteau, Michael Harpon a tué 4 personnes, 3 hommes et une femme. Il en a blessé plusieurs autres, avant d'être abattu par l'un des policiers de la préfecture dans la cour de la dite préfecture. Alors, dans un premier temps, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a écarté la piste terroriste, précisant qu'avant le massacre de jeudi, le meurtrier n'avait, je cite, « jamais présenté de difficultés comportementales, ni le moindre geste d'alerte ». Autant d'éléments qui ont fait penser à un coup de folie de la part de l'intéressé. Mais d'autres éléments sont remontés très vite. Le gouvernement a mis du temps à les prendre en compte, à savoir que Michael Harpon s'était converti depuis un an et demi au moins à l'islam. Là, on a pu entendre la porte-parole du gouvernement, Sibel Ndiaye, tempérer l'emballement médiatique en précisant que ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est terroriste. Le gouvernement a tardé à prendre en compte les informations de plus en plus précises pourtant sur le profil du tueur. Il s'est converti à l'islam, mais il s'est aussi radicalisé puisqu'il fréquentait régulièrement une mosquée salafiste près de Gonesse, en banlieue parisienne, là où il habitait. Mosquée connue pour les prêches très radicaux, extrêmes de l'un de ses imams. L'un des voisins de Michael Harpon dit avoir été réveillé pendant la nuit qui a précédé son passage à l'acte. Michael Harpon aurait crié « Allah Akbar ». L'épouse du tueur a reconnu, elle, après avoir été placée en garde à vue, que son mari était dans un état second la veille de l'attaque, comme s'il avait entendu des voix, a-t-elle dit. Et le matin, avant de se rendre à la préfecture pour y aller travailler, il a envoyé un message à son épouse pour lui dire qu'il venait d'acheter un couteau, un SMS auquel l'épouse a répondu « Seul Dieu te jugera ». Tous ces éléments, bien entendu, plaident pour un acte prémédité, une attaque terroriste sur fond de radicalisation. Et c'est donc, finalement, après les tergiversations du début de l'enquête, le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'enquête pour voir notamment si Michael Harpon a bénéficié de complicité.
Et puis cette attaque a touché l'un des lieux du pouvoir les plus stratégiques.
Oui, la préfecture de police de Paris, on a coutume de dire que c'est un état dans l'état, une institution qui a le culte du secret parce qu'elle manie des informations ultra sensibles. Ses agents ont accès à des informations classées secret défense et c'était le cas de Michael Harpon. Il avait ce statut secret défense qui est délivré pour 7 ans. La préfecture de police de Paris, c'est en quelque sorte le haut de la pyramide sécuritaire en France. Et ces dernières années, c'est dans ces bâtiments que les protocoles ont été mis en place, des équipes dédiées tout spécialement pour prévenir le risque d'attentat, le risque terroriste, après les attaques qui ont frappé la France, notamment en 2015-2016. L'attaque de jeudi dernier a donc été vécue comme un véritable traumatisme, parce qu'il y a eu 4 morts, bien entendu, mais aussi parce que c'est un collègue qui a perpétré cette attaque, la préfecture de police de Paris, attaquée par l'un de ses agents qui y travaillait depuis 15 ans. Personne n'a vu venir la radicalisation de Michael Harpon, même si en 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, on apprend qu'il avait lâché, propos rapportés par l'un de ses collègues, « c'est bien fait ». L'épisode n'avait pas donné lieu à l'époque à un signalement. C'est la stupeur parmi tous les les agents de la préfecture un climat de psychose même, avec ces questions qui se posent. Y a-t-il d'autres éléments infiltrés ou radicalisés au sein de l'institution? Quelles sont les informations sensibles auxquelles le tueur a eu accès ces derniers mois et qu'il aurait pu divulguer à l'extérieur? Et encore une fois, comment se fait-il que personne n'ait vu venir le changement de comportement de Michael Harpon dans ce lieu dont le corps de métier est censé déceler tous les indices pouvant mener à la radicalisation? Toutes ces questions sont posées. Une fois passées l'émotion et la colère, il faudra prendre le temps d'y répondre et on devrait assister à une réorganisation globale des procédures et du suivi des agents de la préfecture de police de Paris.
Retour aussi sur l'incendie de l'usine de produits chimiques Lubrizol à Rouen.
Oui, cet incendie survenu il y a 10 jours et qui a mobilisé toute une nuit durant plus de 250 pompiers et qui a généré un gigantesque nuage de fumée plongeant toute l'agglomération de Rouen dans un climat de psychose, avec des autorités qui continuent d'affirmer qu'a priori, le nuage noir n'était pas toxique, même si pour ceux qui sortaient, eh bien, les œufs piqués, les maux de tête se manifestaient, les écoles qui ont été fermées durant 2 jours, les agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leurs récoltes, car on applique le principe de précaution, en attendant les résultats plus poussés, car des particules, nous l'avons dit, sont retombées de ce nuage de fumée. À Rouen, le malaise des politiques, on l'a bien senti avec des élus locaux, le gouvernement, on ne veut pas créer un climat de psychose, donc la tendance est de rassurer la population, mais on voit bien qu'à l'heure qu'il est, personne n'est en mesure, de façon formelle, de dire si oui ou non cet accident industriel à grande échelle aura des répercussions à court, à moyen terme sur la santé des habitants, si les sols ont été contaminés par exemple. En tout cas, ce qui s'est passé dans cette usine de Rouen ravive le débat sur le risque qu'il y a d'avoir des usines à risque à proximité des zones urbaines. On se souvient de la catastrophe de l'usine AZD à Toulouse en 2001 qui avait entraîné la mort de 31 personnes. Là, il n'y a pas eu de mort, pas de victime directe, mais au-delà, cela relance le débat en France sur ces sites qui sont répertoriés, classés selon leur dangerosité, le fameux classement Céveso. On apprend ainsi que 1379 sites présentent en France métropolitaine des risques d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Et que parmi tous ces sites, vous en avez 744 qui sont classés seuil haut, à haut risque potentiel. L'usine Lubrizol de Rouen fait partie de cette dernière catégorie, et des accidents, des fuites, vous en avez régulièrement. Tous ne sont pas aussi spectaculaires que l'explosion de l'usine de Toulouse en 2001 ou celle de Rouen des derniers jours. Mais vous avez, oui, des accidents régulièrement sans que cela soit forcément médiatisé, que cela arrive jusqu'aux oreilles du grand public. Les chiffres nous indiquent en tout cas que quelques 2 500 000 personnes vivent dans un rayon d'un kilomètre à un kilomètre d'un site industriel classé à haut risque avec ce seuil haut Céveso. Là où on en trouve le plus, c'est en Île-de-France et en continuant le cours de la Seine vers l'ouest, vers la Normandie, avec des villes comme Rouen justement. Vous avez aussi le bassin du Rhône autour de Lyon, très saturé. La région de Marseille, l'étang de Berre également. Historiquement, ces sites, ces usines ont été implantées en bordure des grands fleuves et des voies navigables. Vous avez en France des raffineries de pétrole, des usines pétrochimiques. Et il faut souvent, malheureusement, qu'une catastrophe de grande ampleur survienne pour que les pouvoirs publics réagissent en durcissant les normes de sécurité, les normes de protection de l'environnement et des populations alentour.
Émile, merci et à la semaine prochaine pour une autre page de l'actualité française de la semaine.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez Le Français sur SBS French. Dans un court instant, vous retrouverez Grégory Pless.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités. Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
SBS www.radiocanada.com.au.